important à partager ce matin. Combien de vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Donc, moi, je crois que cette Bible est inspirée de Dieu et on va faire notre déclaration de la foi qu'on aime faire ici à la vie comblée. Donc, si vous avez une Bible avec vous, prenez votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, prenez les notes que vous avez reçues dans votre bulletin et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire en son image au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est Noël. Et aujourd'hui, on a un message de Noël, mais le message, c'est qu'il faut comprendre le message. Est-ce que vous avez eu le message? Donc, pourquoi je dis cela? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, comme j'ai dit la semaine passée, hein, manquaient pas le miracle de Noël. Il y a beaucoup de personnes qui ont manqué, ils voient Noël comme un temps juste d'échanger les cadeaux ou de célébrer le Père Noël ou Baba Natale ou je sais pas qui. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui sont plus religieux. Ils croient vraiment que Noël, c'est la naissance de Jésus qu'on va célébrer, qu'on va souligner. Mais pour eux autres, ils pensent à Noël, ils pensent à la crèche, ils pensent au berger, ils pensent à un petit bébé qui vient au monde et ils voient mon petit Jésus dans la crèche. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il ne faut pas manquer le miracle, hein, qu'il ne faut pas manquer la divinité de Jésus, qu'il est Dieu dans la chair. Il ne faut pas manquer non plus l'humanité de Jésus, qu'il est à 100% Dieu et à 100% homme, n'est-ce pas? Mais aussi, ce matin, je voulais continuer un peu dans cette même direction, dans le sens qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut pas manquer quand on passe la saison de Noël. Il ne faut pas manquer le message de Noël. Il ne faut pas manquer pourquoi Dieu s'est fait chair et pourquoi il est venu sur la terre. Et quand on pense à la réalité que quand Jésus a pris la forme d'un serviteur, il est devenu un homme. Il est devenu un homme pour une raison. Le Père a préparé un corps pour lui, pour une raison, pour que son corps devienne un sacrifice pour nous. En fait, il est mort afin de mourir pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous. Quand on pense à cela, on pense vraiment et on voit vraiment l'humilité que Jésus a démontré, l'amour que Dieu a démontré, qu'il a envoyé son Fils dans le but de mourir pour nous. Et si Jésus est mort pour moi, je vous dis que c'est juste normal que je veux vivre pour lui, n'est-ce pas? Combien de vous voulez vivre pour Jésus? Et là, on a plusieurs personnages. Quand on lit l'histoire de la naissance de Jésus, surtout dans l'évangile de Luc, il y a plusieurs personnes qui parlent et plusieurs personnes qui parlent pas juste de leur propre gré, mais les gens qui vont parler inspirés de Dieu, les messagers de Dieu qui annoncent le message de Jésus-Christ avec une telle précision, avec une telle efficacité que ça vaut la peine ce matin de réfléchir et juste de prendre quelques minutes de se rappeler de qu'est-ce que ces gens ont dit à propos de Jésus et son avènement. Et la première personne qu'on voit, c'est l'ange Gabriel. Vous vous rappelez que Gabriel est allé voir une vierge qui s'appelle Marie pour lui annoncer que c'est elle qui allait tomber enceinte par la vertu de Dieu, que la puissance de l'Esprit Saint allait venir sur elle et elle tomberait enceinte avec le Fils de Dieu. Et il y a quelque chose qu'on voit, le message en réalité que Gabriel nous donne, c'est que Jésus est le roi éternel. Demandez, Jésus est le roi éternel. Et on va lire ceci en Luc 1, 30-33. Il dit, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. N'est-ce pas bon, hein? Jésus, il est venu dans le monde comme un petit bébé, mais il est grand aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il sera appelé Fils du Très-Haut, Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Je pense qu'il est important pour nous de ne pas manquer ce message. Le message que Gabriel nous donne ici, c'est que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu juste pour être un petit bébé mignon dans une crèche. Mais il est né pour devenir roi. Il est né pour devenir roi et il est roi. Il est déjà roi des rois, seigneur des seigneurs. Et un jour même, nous allons lancer et jeter nos couronnes à ses pieds. Et pour toute éternité, il va régner et il va exercer son autorité. N'est-ce pas merveilleux? Donc, si c'est le fait, si c'est une réalité que Jésus est roi des rois, qu'est-ce que nous devrions faire? C'est quoi la réponse au message que Gabriel nous donne? C'est tout simplement, soumettez-vous à son autorité. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes soumis à l'autorité de Jésus-Christ? Il est le roi des rois, mais est-ce qu'il est votre roi ce matin? Est-ce qu'il sera votre roi demain matin? Est-ce qu'il sera votre roi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain? Et pour le restant de votre vie, est-ce qu'il sera votre roi? Parce qu'une chose qu'on sait, que aussi longtemps qu'on est ici sur la terre, le Seigneur Jésus ne va jamais s'imposer. Il va jamais nous obliger de le suivre. Il va jamais nous forcer de faire sa volonté. Il va jamais nous obliger de céder à ses plans pour notre vie. C'est à nous de choisir Jésus comme roi. Et posez-vous la question, c'est qui est assis sur le trône de votre cœur? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est lui? Amen. Jésus est le roi éternel. Amen. Il y a un autre personnage qu'on voit en Luc, c'est Élisabeth. Élisabeth, c'était la mère de Jean-Baptiste. On pourrait dire, dans un sens, selon la chair, c'était la tante du Seigneur Jésus, dans ce sens-là. Mais elle a dit quelque chose qui nous montre que tout ce que Dieu nous promet s'accomplira. Tout ce que Dieu nous promet s'accomplira. N'est-ce pas bon de savoir que quand Dieu fait une promesse, qu'il garde sa parole, il tient sa parole, et il ne déçoit jamais. N'est-ce pas merveilleux que même si les hommes, les êtres humains peuvent nous décevoir, le Seigneur Jésus ne peut jamais nous décevoir. Lisons qu'est-ce qu'elle a dit. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. N'oubliez pas le contexte. Hein? Marie vient de tomber enceinte avec le Fils de Dieu. Donc, tout de suite, elle va aller voir sa cousine. Elle va aller voir sa cousine et Élisabeth. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès qu'elle est entrée dans la présence d'Élisabeth, le bébé Jean le Baptiste, même s'il était un tout petit bébé dans le ventre de sa maman, il a ressenti la présence du Sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Et il a sauté dans le ventre de maman. Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Elle commence à prophétiser. Et voici qu'est-ce qu'elle a dit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Je vais juste arrêter là pour une minute. Vous savez, des fois, on devient tellement religieux. On pense que dans l'église, on ne devrait pas trop faire de bruit. Hein? Il faut être vraiment, avoir un air très religieux et correct. Mais laisse-moi vous dire que quand le Seigneur Jésus, même s'il était dans le ventre de Marie, quand il est entré dans la présence d'Élisabeth, Élisabeth fut remplie de l'Esprit, elle s'écria d'une voix forte. Wouh! Quelque chose s'est passé. C'était pas trop religieux. Je ressens que le Seigneur veut donner une parole aujourd'hui. Ainsi dit l'Éternel. Non? Marie arrive, wouh! Elle dit quelque chose. Tu es bénie entre les femmes! Hein? L'Esprit Saint est là, elle vient de ressentir Jean qui saute dans le ventre wow, quelque chose arrive ici. Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Si c'est bon pour Marie, c'est bon pour vous aujourd'hui aussi. En fait, j'ai mentionné ça la semaine passée, que plus tôt dans ce chapitre, quand l'ange Gabriel commence à parler à Marie, et avec la salutation qu'elle a reçue, elle était troublée, la Bible dit, par cette parole. Le mot « parole », là, dans le texte, c'est le mot « logos ». C'est quelque chose que Dieu a décidé. C'est quelque chose que Dieu a dit et déterminé avant la fondation du monde. Il savait qu'une vierge tomberait enceinte, n'est-ce pas? Il avait une parole pour elle. Mais dès qu'elle était face à face avec cette parole, elle fut troublée. Mais puis, l'ange a expliqué que c'est la puissance de Dieu qui va venir sur toi. Et il a comme donné une révélation à elle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien n'est impossible. Et ce mot « rien n'est impossible », c'est le mot Réma, qui est un autre mot en grec pour parole. Et ça, c'est la parole qui est parlée. Et c'est, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand Dieu a décrit des choses dans les cieux, quand il a eu un plan pour votre vie, les choses qui sont cachées depuis des générations, quand vous avez une révélation et le Seigneur parle la parole dans votre cœur, qu'aucune parole que Dieu vous donne est sans pouvoir d'accomplissement. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Tout le monde dit, aucune parole que Dieu me parle est sans pouvoir d'accomplissement. Tous les rayements de Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a aucune parole que Dieu peut parler dans votre vie qui n'a pas un pouvoir d'être accompli. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi la réaction qu'on devrait avoir par rapport à ce message? Tout simplement, croyez à sa parole. Et cette année, 2006 s'en viennent. Je sais dans mon esprit que 2006, ça va être une année merveilleuse. Pour vous, si vous croyez à sa parole, et pour nous, l'Église, si nous croyons à sa parole. La vision, la mission que le Seigneur nous a confiée s'accomplira. Hein? On va aller de l'avant si on croit à sa parole. N'est-ce pas merveilleux? Donc, j'ai vraiment hâte parce que le deuxième dimanche de janvier même, je vais partager plus sur la vision, qu'est-ce qu'on veut faire pour 2006 et des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur en tant que pasteur que j'ai besoin de parler et de vous montrer. Donc, c'est super, super. Donc, Marie, c'est le troisième personnage qu'on va voir ce matin. Élisabeth a dit ceci, « Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, croyez à sa parole. Mais Marie, elle a un rôle important à jouer dans cette histoire. Et elle nous donne ce message, c'est que Dieu manifeste sa puissance pour élever les humbles. N'est-ce pas bon que Dieu, qui est tellement grand, tellement puissant, tellement redoutable, que Dieu n'utilise pas sa puissance pour écraser les gens, mais Dieu utilise sa puissance pour élever les gens. C'est certain qu'il y aura un moment où la puissance de Dieu va être relâché, on pourrait dire, dans le jugement. Et les ennemis de Dieu vont être écrasés, n'est-ce pas? Mais on sait, en fait, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Et ça, c'est un message important à Noël qu'il ne faut pas oublier. Et regardons bien qu'est-ce que Marie a dit à Luc 1, 46 à 55. Et Marie dit, et voici, c'est tout de suite après que Élisabeth a prophétisé, et sous l'inspiration de l'Esprit, elle s'écria d'une voix forte. Marie dit ceci, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Donc on voit que Dieu qui est grand, Dieu qui est haut et élevé, il regarde ceux qui sont humbles du cœur, n'est-ce pas? Il porte attention à ceux qui sont ici en bas. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant, regarde le langage qu'elle utilise, Tout-Puissant. Pourquoi? Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Combien de vous, vous croyez que Dieu veut faire pour vous des grandes choses cette année? Des grandes choses. Vous dites, mais moi, je suis rien. Je ne peux pas faire grandes choses. Mais vous savez que Dieu spécialise en prenant les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Il a choisi une vierge, une jeune fille qui était sûrement, probablement adolescente. Et il a jeté ses yeux sur elle. Et la puissance du Très-Haut est venue sur elle et elle est tombée enceinte avec le Logos, la parole de Dieu. Mais regardons bien. Il a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Vous voyez, c'est sur ceux qui le craignent qu'ils vont recevoir la miséricorde de Dieu. Il a déployé la force de son bras. On parle de tout-puissant. On parle de grandes choses. On parle de la force de son bras. Est-ce que vous êtes d'accord que le bras de Dieu est assez fort? On ne peut pas imaginer. On voit des hommes sur la terre et on voit les hommes forts. Arnold Schwarzenegger, les gars de même. Mais laisse-moi vous dire, il n'est rien comparé à Dieu. Il a des bras qui sont assez costauds, mais pense au bras de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Vous savez, c'est ça le problème. On voit dans le monde les personnes qui pensent être quelque chose, qui se prennent pour des grands, qui vont prendre l'autorité qui n'a pas été déléguée, qui vont opprimer les gens par la force qu'ils ont prise. Mais là, on voit que la nature de Dieu n'est pas comme ça. Dieu est infiniment plus grand, plus puissant que l'homme le plus influent ici sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais Dieu, quand il utilise et quand il manifeste sa puissance, c'est toujours pour élever les humbles. Amen. Et même disperser les orgueilleux. Les gens qui mettent leur confiance dans les richesses vont être renvoyés à vide. Et ceux qui sont affamés, s'ils mettent leur confiance en Dieu, vont avoir une pleine provision. N'est-ce pas merveilleux? Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc on voit la nature de Dieu. Le message de Noël, c'est que Dieu manifeste sa puissance pour élever les humbles. Et moi, je vous dis que ça vaut la peine de s'humilier devant Dieu, n'est-ce pas? Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Soumettez-vous sous sa main puissante. Il y a une autre personne dans cette histoire, en Luc, qui nous donne un autre message important. Et ça, c'est Zacharie. Pas mon fils Zacharie, mais Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Vous vous rappelez que, parce que son épouse, Élisabeth, était stérile, n'était pas supposée d'être capable de concevoir. Elle était avancée en âge même. Et un jour, le Seigneur a envoyé un message à Zacharie que son épouse allait tomber enceinte. Et vous vous rappelez de l'histoire, hein? Il riait, il ne pensait pas que c'était possible. Il n'a pas compris. Et à cause de cela, il est devenu muet. Il ne pouvait plus parler. Et pendant toute la grossesse, il ne pouvait plus parler. Et finalement, quand le bébé est né, et tout le monde voulait l'appeler, selon la coutume, après le père, et laisse-moi vous dire, quand Élisabeth a dit que son nom est John, tout le monde était comme dans la confusion. Comment ça? Il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle John. Et ils ont donné quelque chose à Zacharie pour qu'il puisse écrire le nom. Et il a dit, son nom est John. Quelque chose, hein? Et dès qu'il a fait cela, sa langue, sa voix est revenue. Il était capable de parler. Et dès qu'il a commencé à parler, l'Esprit Saint était sur lui pour prophétiser. Et écoutons qu'est-ce qu'il a dit, parce que le message que Zacharie a prononcé, c'est pour nous aujourd'hui. Ça devrait nous encourager. Zacharie a dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheter son peuple. Déjà, on pourrait prêcher pendant un mois juste sur ce verset-là. Il est le Dieu d'Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'était un homme, n'est-ce pas? Jacob. Jacob, c'était le petit-fils de qui? De Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et la relation qu'il avait avec Jacob était tellement, tellement importante que Dieu n'est pas juste un Dieu impersonnel, mais Dieu est un Dieu qui est très personnel. C'est le Dieu d'Israël. Israël aussi représente la nation d'Israël. Et quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il a fait son alliance aussi, à la fois avec toute la les descendants d'Abraham, et nous, spirituellement, nous sommes les enfants d'Abraham aussi, n'est-ce pas? Donc, on voit ici que le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et rachetés son peuple, n'est-ce pas merveilleux que le Créateur a pris la peine de venir visiter sa création qui a chuté? Il est venu nous visiter, pas pour nous chicaner non plus. Il aurait pu. Il avait le droit de venir nous visiter avec sa colère, avec une punition qu'on a méritée, n'est-ce pas? Mais quand Dieu est venu nous visiter sous forme corporelle, quand Dieu s'est fait chair, il est venu pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais pour nous délivrer, nous racheter. N'est-ce pas merveilleux? Car voici désormais... Pardon, non, j'ai perdu ma place. Et verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur. C'est pas un faible sauveur, mais un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous aiment pas? Savez-vous que vous avez un ennemi? Savez-vous que vous avez quelqu'un qui vous déteste? Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui veut vous détruire et qui veut vous tuer, vous faire souffrir? Et que son but, c'est vraiment de vous voir passer l'éternité dans les temps de feu séparés avec Dieu. Vous avez un adversaire, le diable. Et le diable, malheureusement, est devenu le dieu de ce siècle. Parce que Adam et Ève ont commis la trahison et ils ont donné l'autorité à Satan, et tous ceux qui sont venus au monde depuis Adam et Ève sont sous la puissance du malin. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont quand même encore aujourd'hui les enfants du diable. Et Jésus a dit, ne soyez pas étonnés si le monde vous haït. Parce qu'ils m'ont haï en premier, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est venu, il est venu pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et ça, c'est une promesse qu'il a faite pour nous en tant que chrétiens, mais c'est une promesse aussi qu'il a faite à Israël et aux descendants d'Israël dans le naturel aussi. Eux autres, ils pensaient que quand le roi, le Messie allait naître, qu'il allait devenir un roi naturel, qu'il allait former une armée et conquérir et dévaster leurs ennemis naturels. Ça s'en vient, laisse-moi vous dire. Dieu n'a pas oublié cette partie de sa promesse. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait racheter pas juste les enfants selon la chair, les enfants d'Israël, mais il voulait aussi acheter pour lui les membres de chaque race, de chaque tribu, de chaque langue sur la planète. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je fais partie de cette foule des rachetés. Et vous? Regardons bien, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous... Regardons bien cela. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Là, il parle de Jean-Baptiste. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Pourquoi est-ce que le soleil levant nous a visités d'en haut? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quelle belle prophétie! Ça, c'est un message de Noël. Hein? Et si vous regardez dans vos notes, le message que vraiment Zacharie a communiqué, c'est que Jésus nous libère de tous nos ennemis. N'est-ce pas merveilleux que Jésus nous libère de tous nos ennemis? Il nous a libérés de la mort, il nous a libérés de la pauvreté, il nous a libérés de la maladie, il nous a libérés de Satan. Merveilleux, n'est-ce pas? Je suis libéré. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Et si aujourd'hui, vous êtes ici et vous ressentez les liens de l'ennemi sur votre vie, si aujourd'hui vous n'avez pas vraiment l'impression que vous vivez dans la liberté, j'ai une bonne nouvelle. Jésus vous a libéré. La bonne nouvelle, c'est que même si vous ressentez que vous êtes en prison ce matin, esclave du péché, vous êtes dans une cellule noire. Pas drôle, hein? Être prisonnier. On a eu la chance une fois de visiter la prison de Alcatraz. Hein? Vous avez entendu parler de cela, hein? Et on a vu, hein, on est entré dans les cellules où ils faisaient le solitaire. Comment est-ce qu'on dit cela, hein? La solitaire. C'était complètement noir, fermé, en isolation complète. Peut-être vous vous ressentez comme ça aujourd'hui même. Comme, tout est noir, je vois rien. La bonne nouvelle, c'est que la porte est déjà débarrée. Votre pardon est déjà accordé aussi. Et qu'est-ce qui est vraiment triste, c'est de voir des personnes ici sur la terre, les chrétiens qui ont accepté Jésus, marcher toute leur vie comme des prisonniers du péché. Ils se sentent liés, mais la réalité, c'est que Jésus les a déjà délivrés. Vous savez, c'est comme des personnes qui sont pas encore nés de nouveau. La réalité, c'est qu'ils sont déjà pardonnés. Jésus a déjà versé son sang. Il est déjà ressuscité des morts, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de demander, « Oh Seigneur, envoie quelqu'un pour me sauver. » Il l'a déjà fait, n'est-ce pas? Personne n'a besoin de demander en faveur de Dieu le Père pour le salut. Dieu a déjà fait tout ce qu'il va faire pour votre salut. Il a envoyé son Fils, Jésus. Il nous a déjà délivrés de nos ennemis, n'est-ce pas? Mais si c'est vrai pour votre salut, c'est vrai aussi pour votre guérison, c'est vrai aussi pour votre délivrance des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit, vous êtes libérés en Jésus. Amen. Alors, donc, qu'est-ce qu'on devrait faire si Jésus nous a déjà libérés de nos ennemis? On devrait servir le Seigneur sans crainte. La peur, c'est l'ennemi numéro un du chrétien. L'âme secrète, on pourrait dire, du diable, c'est la peur et la crainte. Il ne peut rien faire pour nous faire vraiment mal, à moins qu'on lui croie. Parce que Jésus a déjà désarmé Satan. Satan est déjà vaincu. Mais si vous croyez à ses mensonges, si vous écoutez le bruit qu'il fait, vous serez quand même prisonnier. N'est-ce pas bon? Qu'on peut servir à tous les jours, sans crainte, marcher dans la sainteté et la justice. Il y a juste une chose que je veux souligner dans ce verset. Regardons verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La sainteté et la justice. Combien de jours? Tous les jours. C'est-à-dire que vous avez la capacité en tant que chrétien. Le message de Noël ce matin, je crois que vraiment il y a des gens qui ont besoin de ceci maintenant. Donc écoutez bien. Vous êtes capable de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de votre vie. 365 jours par année. Jésus vous a déjà sanctifié. Il vous a déjà justifié. Vous êtes aussi juste que Jésus-Christ lui-même par le sang précieux de Jésus. Et si vous comprenez votre justice, qui vous êtes en Jésus, votre position en lui, vous allez pouvoir aussi marcher dans la sainteté, être mis à part pour lui. Donc, servez le Seigneur sans crainte. N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur de ce que les autres pensent, n'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu veut pour vous, parce que Jésus a commencé cette bonne œuvre en vous et c'est lui qui va la rendre parfaite. Amen. Donc, les anges sont des autres joueurs dans cette histoire. Les anges nous disent que Jésus nous offre une bonne nouvelle. Écoutons ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Tout le monde dit une bonne nouvelle. Le message de Noël, c'est une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on voit ici quelque chose d'extraordinaire, que Jésus est venu pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, pas pour dire que vous êtes des méchants pécheurs, vous êtes destinés à brûler à l'enfer, mais la bonne nouvelle, c'est supposé d'être un sujet d'une grande joie en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia! Paix sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Marcher dans la joie et marcher dans la paix. Vous savez que la paix, en hébreu, c'était le mot shalom. On parle des hébreux ici aussi, n'est-ce pas? Shalom, ça veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Siméon, c'est l'autre personne qu'on veut lire aujourd'hui. Et on va voir ici que le message de Jésus-Christ provoque les choix opposés. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. N'est-ce pas bon d'être conduit par l'Esprit Saint dans la vie quotidienne? Un jour, il se réveille, c'est comme, il faut que j'aille aujourd'hui au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » C'est-à-dire, je peux mourir maintenant, selon ta parole. « Quand mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Tout le monde dit « tous les peuples. » Dieu ne fait exception de personne. « Lumière pour éclairer les nations. » C'est-à-dire les non-juifs, et gloire d'Israël, ton peuple. Donc Dieu a préparé un salut pour les non-juifs et les juifs, tout le monde ensemble. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. » On va le dire ensemble, « La chute et le relèvement. » de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus est à la fois un message de vie et un message de mort. Pour ceux qui le croient, pour ceux qui le reçoivent, c'est un messager de vie. Mais pour ceux qui rejettent Jésus, c'est un message de mort. En fait, la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on doit bâtir notre vie. Mais il est aussi à la fois une pierre d'achoppement pour les autres. La même pierre qui peut être la fondation de la vie de quelqu'un peut être la chose qui va la faire trébucher. Comment ça? Quand on dit qu'il y a un seul sauveur et un seul nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés, ça c'est une pierre d'achoppement dans notre monde aujourd'hui. Les gens vont dire, mais on ne peut pas dire cela. Moi, je sais que je n'ai pas compris. Hein? Vous savez que quand j'avais, 10 ans, j'étais en 5e année à l'école, et je venais tout juste d'être né de nouveau.
et ma vie était transformée par Jésus. Et j'étais tellement en feu pour Jésus même là, que quand je suis allé à l'école et on étudiait l'histoire, et mon professeur disait, tu sais que dans notre nation, nous avons une liberté, il y a une séparation entre l'État et l'Église, et qu'on a une liberté pour toutes les religions ici. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent, ils peuvent adorer Mohamed, ou ils peuvent être hindous, ils peuvent être... Et moi, je levais ma main et je dis, non, c'est pas correct ça! Hein? J'avais 10 ans. Non, c'est pas correct, c'est juste Jésus qui est vraiment le seul vrai Dieu. Oui, mais tu sais, il faut comprendre, les autres ont le droit d'adorer aussi, etc. Moi, je comprends, j'ai pas compris le principe, hein. Parce que je comprends le principe qu'on peut pas imposer notre religion sur qui que ce soit. Ça, je comprends. Mais qu'est-ce que j'étais convaincu, c'est que Jésus est le seul et l'unique sauveur du monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Prenez Jésus comme le rocher de votre vie. Amen. Trébuchez pas sur Jésus, mais bâtissez votre vie sur lui. Puis finalement, on va finir ici avec le message de Anne. Et Anne nous révèle que Jésus est le seul qui peut satisfaire nos attentes dans la vie. On s'attend à avoir beaucoup de choses. Des fois, on a des rêves, des visions, des choses qu'on veut recevoir ou voir dans notre vie. Mais pour Anne, la seule chose qui a satisfait les attentes qu'elle avait dans son cœur, c'était l'arrivée de Jésus. Verset 36 dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Fort, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, parce qu'elle était là quand Siméon a prophétisé. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce que tu vois cette femme qui, jour et nuit, elle est au temple. Elle cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne. Et finalement, Jésus arrive et elle savait dans son cœur que c'est lui l'accomplissement. Pourquoi est-ce que je passe toute ma vie ici au temple? Pourquoi est-ce que j'attends jour et nuit ici au temple? Pourquoi est-ce que je passe tant de temps dans la prière et dans le jeûne? Parce que j'attendais toutes ces années pour l'arrivée de Jésus. Et dès qu'il est arrivé, elle ne cessait pas de parler de lui. C'est quoi le message qu'on peut avoir aujourd'hui de la part de Anne? N'arrêtez pas de parler de Jésus à tous ceux qui cherchent la délivrance. Vous savez qu'aujourd'hui, on devrait faire comme Anne. On a découvert, on a réalisé que c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Finalement, le Messie est arrivé. Il est venu, n'est-ce pas? Mais c'est à nous maintenant de parler sans cesse à tout le monde qui cherche la délivrance. À chaque fois que nous rencontrons quelqu'un ici à Drummondville ou que ce soit n'importe où, et on voit que c'est une personne qui souffre, une personne qui a besoin de connaître leur raison d'être ici sur la terre, on devrait prendre cela comme notre devoir, comme Anne, à parler de Jésus à tous ceux qui cherchent la délivrance. Juste en Luc chapitre 1, regarde bien, juste ici, dans ces quelques passages, la richesse des choses, des messages qui ont été dits, inspirés de l'Esprit Saint. On pourrait passer une semaine sur chaque personne et faire une étude approfondie. Mais je voulais juste prendre quelques minutes ce matin de nous rafraîchir la mémoire, de nous rappeler le message de Noël. Ce n'est pas un message d'un petit bébé dans une crèche, c'est le message d'un roi des rois qui est venu sauver le monde. Amen. On va se lever debout. J'ai promis qu'on finirait à midi, il est midi. Je pense que selon ça, il est 11h59. Alléluia. Donc si on peut fermer les yeux et prier, si on peut avoir... Les musiciens, je pense qu'on va juste terminer avec un chant. Alléluia. On va fermer les yeux, on va prier ce matin. Parce que vous savez que à chaque dimanche matin, on donne l'occasion à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus d'ouvrir leur cœur et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Roi des rois. Je crois qu'il est venu sur la terre, qu'il est né. homme est Dieu. Je crois qu'il a grandi et qu'il s'est offert comme sacrifice sur la croix pour mes péchés. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Ce n'est pas une chose qu'on a besoin de faire plusieurs fois. Une seule fois dans la vie, on peut recevoir Jésus et être né de nouveau. Mais après cela, on peut continuer à vivre pour lui tous les jours de notre vie sans crainte. On peut marcher le servir dans la sainteté et dans la justice à tous les jours. Et je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais pris cette décision? Tu n'as jamais reçu dans ton cœur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître. Tu crois qu'il est Dieu, tu crois qu'il est ressuscité, mais si tu es honnête avec toi-même et avec moi, tu n'es pas sûr et certain d'avoir reçu la vie éternelle. Pas sûr d'avoir une place réservée pour toi au ciel. Si c'est le cas, juste lever la main, on va prier ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais que la plupart de vos jours, vous connaissez, vous êtes des gens qui ont déjà reçu Jésus. Mais je pense qu'on devrait prendre le temps de réfléchir, de penser à ce message. Qu'est-ce que Gabriel nous a dit, que Jésus est le roi éternel. De se souvenir des paroles d'Élisabeth, qui nous dit que tout ce que Dieu nous a promis s'accomplira. D'écouter Marie, quand elle dit que Dieu manifeste sa puissance pour élever les humbles. Zacharie qui dit que Jésus nous libère de tous nos ennemis. Les anges qui chantent et qui vont annoncer que Jésus nous offre une bonne nouvelle. Simeon qui a prophétisé que le message de Christ provoque les choix et les décisions opposées, qu'on a besoin de prendre la bonne décision par rapport à Jésus. Et Anne qui nous rappelle que Jésus est le seul qui peut satisfaire nos attentes dans la vie. Il ne faut jamais arrêter de parler de Jésus à ceux qui ont besoin de lui. Merci Père Céleste. Nous t'aimons, nous te remercions Seigneur pour Noël. Merci qu'on peut célébrer Noël à tous les jours. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Prie avec moi, Père Céleste. Nous te remercions de nous avoir envoyé ton Fils unique. Jésus, nous croyons qu'il est venu la première fois, qu'il est né comme un enfant, mais il est maintenant ressuscité, glorifié et roi des rois. Et on croit de tout notre cœur que comme il a venu la première fois, il va sûrement venir une deuxième fois. Cette fois-ci, pour exercer jugement, pour nous enlever, pour qu'on puisse être avec lui pour éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.